Bien, je vous remercie. Je suis tout à fait touché de pouvoir évoquer avec vous cet après-midi la mémoire et l'œuvre du père Jean Wiendorf. Pour ce faire, d'ailleurs, je vais assez peu parler de lui, mais plutôt je vais tenter de situer le degré de son intervention dans le champ des études palamites d'une part et de ce qu'on a appelé le renouveau de la patristique d'autre part. Je tiens, pour être clair, à dire que je m'exprimerai moins en patristicien ou patrologue, une notion avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés épistémologiques, que simplement en tant que, on va dire rapidement, théologien pour situer le cadre, là encore, je dirais, de situation de cette parole. Alors, rapidement, il est évident, d'une part, que la question qui repose au fond de ce champ du savoir, cette problématique, c'est de savoir au fond ce qu'il en est d'Athènes et de Jérusalem, qui sont des testaments inégaux pour celui qui, ni grec ni juif, se sait ou se veut chrétien, en quelque sorte. Comment le questionnement de l'être se mesure-t-il à l'Écriture, le lieu de la révélation de Dieu, sa parole inspirée, et s'il existe ou non un autre fondement à la théologie que l'unité mystérieuse, parfois aveuglante, toujours difficile, de la doctrine et de la spiritualité, c'est-à-dire de l'expérience même de l'Église. Et enfin, question qui a présidé, je crois, à l'œuvre du père Jean Wiendorf, y a-t-il ou non, à la croisée de la raison et de la foi, une philosophie chrétienne, ou faut-il considérer que l'événement, la modification de l'incarnation, correspond réellement à une ère nouvelle de la connaissance de Dieu. Alors, comme vous le savez, on ne va pas épiloguer des heures, Palamas joue un rôle discriminant face à ces questions. Il joue un rôle discriminant puisqu'il aura été jugé tour à tour soit un hérétique représentatif des déviations du christianisme byzantin, soit comme un apax incompréhensible au sein du christianisme byzantin, soit comme la clé non seulement du christianisme byzantin, mais d'une juste lecture des pères, soit comme justement un métaphysicien doctrinaire, interprète erroné de la tradition des pères, soit enfin aussi un mystique sincère, un défenseur d'une spiritualité jugée parfois hasardeuse, ou enfin comme le signe de ralliement d'une orthodoxie en mal de spéculation et obligée de justifier sa sensibilité propre. Je reviendrai sur toutes ces définitions qui sont évidemment des définitions du palamisme ou de l'œuvre de Palamas consécutives aux travaux du père Jean et correspondant aux réactions que ces travaux ont pu susciter au sein du monde savant et en premier lieu catholique. Et je dois malheureusement en revenir au fait que si avant l'œuvre du père Jean, on dispose en termes d'imprimés, de travaux imprimés, de 2 ou 3, 4, 5, 6 monographies, on reviendra sur ces monographies, et de 2 ou 3 articles de dictionnaires. Évidemment, après 1959, la publication des triades par le père Jean et la publication de sa thèse, sur une trentaine d'années, on dispose de 600 ou 700 références sur Palamas, en livres, en articles divers. Et donc, là, j'y reviens malheureusement, en toute amitié avec les pères dominicains, au fameux numéro d'Istina, n'est-ce pas, des années 70, 74 pour être précis, qui correspondait en fait à une vaste entreprise de rectification, on dira, en quelque sorte, de l'événement que représentait, dans le cadre des études patristiques, la thèse du père Jean, en précisant que cette thèse finalement, mener les études patristiques vers un chemin fort illégitime, voire en fait à une manipulation, hein, c'était le terme, et de manière tout à fait intéressante, dans la préface à ce numéro, dans l'introduction à ce numéro, je pense que c'était le père Leguillou, c'est pas signé, mais c'était le père Leguillou, prévenait de, finalement, l'erreur grotesque qu'il y avait chez certains savants catholiques à pousser un peu trop loin le bouchon. Il pensait évidemment au père Martin Gégy, et il le citait, père assomptionniste, qui avait tellement attaqué Palamas dans le dictionnaire de théologie catholique, qu'il avait fini par ramener le souvenir de Palamas chez les orthodoxes, lesquels, au fond, ne s'étaient jamais souciés de Palamas. Et que c'est comme ça, à force de polémiques indues, qu'on finissait par susciter chez les orthodoxes une théologie qui n'avait jamais existé. Et que maintenant, il fallait que, évidemment, le père Leguillou et ses frères redressent tout ça d'une manière un peu énergique. Le plus énergique d'entre eux étant, évidemment, le père Garrigue, qui n'y allant pas par, je dirais, par des chemins détournés, nous asséna une lecture thomiste de Maxime le Confesseur qui aurait étonné Maxime lui-même, je pense. Donc, nous en étions là, et évidemment, ce rapport est déterminant. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est que, et rapidement, c'est que la lecture de Palamas, contextualisée, a toujours été une lecture polémique, n'est-ce pas ? C'est le problème. Et donc, contre-polémique, ensuite, et qu'il a fallu le père Jean pour que s'instaure une lecture orthodoxe, on essaiera de qualifier cette lecture ensuite, je dis bien il a fallu le père Jean, pas avant, il a fallu le père Jean pour que s'instaure une lecture orthodoxe qui ne soit plus dépendante de la polémique, mais qui présente réellement une perspective catholique de lecture dans laquelle pouvaient s'installer à la fois les orthodoxes et les non-orthodoxes, les catholiques en premier lieu, puisque, évidemment, ce rapport polémique était entre latin et grec, puis catholique et orthodoxe, n'est-ce pas ? Donc, si, en fait, on veut comprendre tout cela, il faut faire un peu d'histoire, voire de préhistoire, et il faut repartir au XIVe siècle, au moment où Barlaam se rend à Avignon, et où, consécutivement au séjour de Barlaam à Avignon, Richard d'Armague publie un contra errores grecorum, n'est-ce pas ? C'est un évêque des îles britanniques. Et en fait, il dépiste chez les Grecs modernes, c'est-à-dire chez les Grecs contemporains, et c'est vraisemblablement une information qui tient de Barlaam, qu'il y a une doctrine de la lumière incréée qui, évidemment, est inacceptable dans la bonne tradition, puisque d'ores et déjà, pour Rome, qui à cette époque-là était Avignon, la vision béatifique, c'est la vision de l'essence divine, n'est-ce pas ? Et on va voir que tout va s'articuler autour de là, sur 6 siècles, jusqu'en 1959, où enfin on va sortir de cette question. Parce que contrairement à une idée reçue, évidemment, Palamas n'a cessé d'être un objet récurrent de l'histoire de la théologie grecque et consécutivement de l'histoire de la théologie latine et réciproquement. Donc il n'y a jamais eu d'éclipse de Palamas, Palamas n'a pas été réinventé au XXe siècle, Palamas a été présent de manière permanente, encore une fois, comme un signe de discrimination. Signe de discrimination évident, par exemple pour Démètre et Procore Kidonès, qui lorsqu'ils deviennent dominicains au XIVe siècle, introduisent Thomas d'Aquin à Byzance, choisissent nommément une lecture de la tradition qui est la lecture thomiste qu'ils opposent consciemment à la lecture palamite, n'est-ce pas ? Signe de discrimination au concile de Ferrare-Florence, dans les 14 réponses de Marc d'Éphèse aux 14 questions posées par les latins, questions 3 et 4 sur la condition eschatologique, où Marc oppose, ou doit s'expliquer face à Jean de Monténero, face aux Dominicains, sur cette notion de lumière incréée. J'ai des textes qui sont très intéressants. Par exemple, dans le commentaire qu'on fait Jean, vous verrez, c'est assez intéressant, Jean de Torquemada, vous verrez la difficulté qui se pose à la tradition latine. Je vais le retrouver une seconde, voilà. Lui-même note, concernant le Dieu triun, il faut écarter la mauvaise interprétation de ceux qui n'admettent pas comme ultime béatitude des hommes la vision de Dieu lui-même, ceux-là même qui veulent introduire une autre réalité qui se distinguerait réellement de l'essence divine et qui chez les Grecs, et que les Grecs appellent énergie, opération ou radiance. Vous voyez ? Donc vous voyez bien que même au Concile de Ferrare-Florence, il y a présence de ce débat. Oui. Signe discriminant chez Génade Scholarios, qui pour moi est le point de rupture, et qui est un point de rupture qui va se retrouver jusqu'au XXe siècle, dans la théologie orthodoxe, c'est-à-dire en raison de la difficulté d'assumer la lecture palamite de la tradition patristique, c'est toujours la tentation d'en revenir à un système mitigé, où on réintroduit une sorte d'infrascolastique, qui ne fait même pas honneur à la scolastique, on réintroduit une sorte d'infrascolastique qui est censée, en quelque sorte, justifier une théologie première qu'on ne comprend plus. Puisque, on le verra, il va de soi que si la théologie palamite a rencontré forte opposition en Occident chez les latins ou les catholiques, il va de soi qu'elle a quand même trouvé ses meilleurs ennemis chez les orthodoxes, n'est-ce pas ? Hein ? Bon, je passerai sur le dialogue épistolaire entre Jérémie II et les théologiens luthériens, où il est aussi question de la vision béatifique, et j'en arrive en fait à une véritable crise dans le savoir théologique occidental, fin du XVIIe, début du XVIIIe. Cette fois-ci, c'est pas chez les dominicains, c'est chez les jésuites. Vous voyez, père, bon. Ils sont où ? Et c'est évidemment la grande crise qui oppose le père Vasquez au père Peto, en passant par le père Suarez. Et c'est la question, évidemment, de, là encore, la vision béatifique. Si la vision béatifique est la vision de l'essence divine, comment peut-on expliquer que toute la tradition grecque dise le contraire ? C'est une manière, en fait, de poser la question de la lecture des sources patristiques, n'est-ce pas ? C'est ce qui nous intéresse là-dedans. C'est la question, en fait, une véritable question de méthodologie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, quelle est l'autorité des références patristiques dès lors qu'elles contredisent une dogmatique ? Alors, la réponse de Suarez, qui fait un commentaire de la première partie de la Somme théologique, c'est de dire que il y a un fourvoiement des pères grecs. À preuve, les pères grecs les plus récents et bing, pas la masse. La thèse provoque scandale dans la Compagnie de Jésus, j'entends, hein, pas en dehors même. Et François Suarez s'attache à la réfuter. Et lui dit, non, en fait, on a mal compris les pères grecs, je vais vite, hein, je pourrais passer des heures sur la différence entre la vision compréhensive, la vision essentielle, enfin, etc. Des choses tout à fait passionnantes, d'ailleurs. Mais lui dit, non, la vision, la tradition des pères grecs est tout à fait catholique, simplement, il y a un lapsus intolérable dans cette tradition, c'est la théologie byzantine. Un autre intervenant... L'argument de Suarez est repris par Diego Ruiz de Montaya, qui est aussi un commentateur de Thomas, et qui, lui, voit là-dedans une erreur crasse et manifeste de la tradition grecque tardive. Enfin, le savant Denis Peto intervient, et pour lui, très simple, on peut avoir de la condescendance pour les pères grecs antérieurs au schisme. Cette condescendance n'est plus de mise pour les pères postérieurs, et il faut donc considérer qu'il y a dans la tradition grecque une confusion intolérable, n'est-ce pas ? Des ridicula dogmata, des dogmes ridicules, dogmatisation ridicule, une fable barbare et insensée, dithéiste et polythéiste, dont, citation, le défenseur le plus acharné, le coryphée, fut Grégoire Palamas. Alors, en fait, d'où vient cette insistance sur Palamas et cette connaissance de Palamas ? Elle vient, en fait, de l'action des pères jésuites, principalement dans les îles grecques. On en a un excellent témoignage avec le père François Richard, auteur d'un Targa Tis Pisteos, qui nous donne une relation de voyage assez intéressante à Santorin, où il était, où il avait d'ailleurs créé un tel trouble par son insistance à vouloir latiniser les Grecs, que les Vénitiens avaient fini par le mettre dehors, n'est-ce pas? Parce qu'il avait créé une sorte de pseudo de révolution sur l'île. C'était un homme sérieux, il n'était pas allé par quatre chemins. Et donc, il écrit que Palamas est un méchant hérésiarque et qu'il a été dépité de voir que ses corélégionnaires préféraient la paix civile à l'obligation que la charité chrétienne leur imposait d'abattre le schisme et l'hérésie. Et donc, il dit, je vous le lis, c'est intéressant, parce que c'est une source importante de notre savoir, c'est comme ça que se constitue le savoir, n'est-ce pas? Il ne faut pas le croire. Les jésuites déclarèrent que Grégoire ne méritait pas les honneurs que les Grecs lui rendaient le second dimanche de carême, je passe sur l'orthographe de l'époque, en célébrant sa fête et en lui donnant des éloges non pareils, qui n'étaient pas l'aigle de la théologie, comme il disait, mais la posthume et l'ordure, ainsi que le nommait le docte Cariophilus, qui n'était pas la colonne de l'Église, mais l'opprobre et la ruine, au sentiment du savant patriarche Gennadius, qui n'était pas la trompette de l'Évangile, mais un grand blasphémateur, au dire de Nicéphore Grégoras en son histoire, qu'il ne se devait dire la joie du monde et la gloire du paradis ainsi qu'il le croyait, mais un monstre d'hérésie, comme l'assure Arcudius et le déclare Démétrius Quidonius. En un mot, que Palamas n'était pas le séjour du Saint-Esprit, mais un athée qui soutenait qu'il y avait plusieurs divinités et n'en reconnaissait aucune, ainsi que Langaridius a remarqué très sagement, car, pour lors, les Grecs fulminèrent 1000 anathèmes contre nos pères, disant que nous voulions renverser leur foi, abolir leur rite, séduire ce qui était de facile créance, et qu'étant obligés de croire ce qui était couché dans leur livre, ils honoreraient Palamas malgré nous. Ils niaient que Palamas soit hérétique, on les convainquit par leur propre livre, vu qu'ils portent que Palamas enseignait que la lumière qui parut en transfiguration et fut vue des apôtres était une chose incréée et réellement différente de l'essence divine. Alors j'arrête là une seconde, je vais pas être très long, je vais arriver au père Mirandorf, ne vous inquiétez pas. Ce texte est extraordinaire. D'abord parce qu'il montre un sens de la vie qui nous accable, n'est-ce pas, dans nos tristesses profondes et mélancoliques. Et moi, j'aime beaucoup le père Richard, je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'avoue que là, on a quand même un peu d'allant, n'est-ce pas, et de la conviction, il faut le lui reconnaître. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait dans ce texte une liste de tout, d'où est-ce qu'il a trouvé ce qu'il pense sur Palamas. Ce qu'il pense sur Palamas, c'est très correct d'ailleurs, il faut remarquer qu'il a une bonne connaissance, n'est-ce pas. Lumière incréée, distinction essence-énergie, distinction réelle. Donc on est chez un bon connaisseur, évidemment qui est antagonique, mais un bon connaisseur. Alors vous avez vu qu'il cite des tas de gens. Alors pour un lévite, les gens qu'il cite... Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que... Richard raconte qu'il doit faire face à des caloyers, à des moines venus du mont Athos, qui agitent la population, dit-il, contre sa volonté de réforme, n'est-ce pas? Vous voyez, historiquement, c'est très très intéressant de voir la disposition des termes. Mais d'où est-ce qu'il tient son savoir? Bon, Arcadius, c'est Pierre Arcadius, qui est né à Corfou en 1562, c'est le premier élève du collège Saint-Athanase de Rome, collège fondé après la chute de Constantinople, face à la perspective d'une impossibilité d'un nouveau concile, d'union, en vue de favoriser le rattachement des Grecs, et pas que des Grecs, on va voir, à Rome. Pierre Arcadios, né à Corfou en 1562, en fait, on passera la majorité de sa vie en Ruthénie, et il finira archimandrite de Larisves et archiprêtre de Pinsk. Il a été l'éditeur des textes de Barlaam, des textes de Jean Bécosse, des textes de Quidonès et même des traités apodictiques de Palamas. Jean-Mathieu Cariophilès, lui aussi est natif de... Lui, il n'est pas natif de Corfou, mais de Crète, de Chania, de Lacanée. Lui aussi... sera en fait un élève du collège Saint-Athanase. Il devra fuir la Grèce sous des menaces de mort devenu archevêque in partibus d'Iconium, en fait s'attachera à publier à Rome et à réfuter les textes de Cyril Loucaris, de Garganos, le métropolite d'Arte, etc. Et il fera une édition tout à fait valable des actes de Florence. Langaridius est originaire de l'île de Kyo. Lui aussi est un ancien élève de cet Athanase. Et en fait, c'est Paisios Pantaléon Ligarides, mais lui, en fait, il fut un véritable aventurier spirituel de l'époque. Il se fit consacrer archevêque de Gaza par le patriarche orthodoxe de Jérusalem, tout en touchant de solides subsides de la propagande romaine. Donc, voyez. Et on le retrouve ensuite en Valachie, puis en Russie, où il se mêle de réformes liturgiques. Il fait aussi du commerce de zibeline. Et il finit, je dirais, assez justement déporté en Sibérie par le pouvoir impérial, certainement fatigué de voir ce type s'agiter, dont on ne savait pas très bien quel maître il servait, au fond. Alors, il y a quelques noms qui manquent, évidemment, c'est Léon Alatius, n'est-ce pas? Et puis, Alatios, lui aussi, grec, auteur d'une vaste correspondance avec Ambulphilis, Neos, etc. Mais on voit aussi que Richard cite des sources byzantines. Il cite Scholarios. Il cite Kidones. Il cite Grégoras, n'est-ce pas? Et donc, on voit qu'en fait, le savoir sur Palamas a été un savoir constant au cours de ces siècles, et que en fait déjà Palamas sert de point de discrimination. En quelque sorte, les jésuites insistent sur le fait que les orthodoxes doivent rallier Rome, non seulement parce que Rome c'est la vérité, mais parce que Palamas c'est l'hérésie. Et en contre-coup, les orthodoxes se savent vraiment orthodoxes en étant attachés à Palamas, peut-être pas sous une forme extrêmement consciente du point de vue du commentaire, mais sous une forme extrêmement consciente du point de vue de l'identité. Et en même temps, vous rendez bien compte que cette disposition tactique empêche complètement de lire Palamas de manière sereine, n'est-ce pas? Hein? On va y arriver, c'est à ça que va nous faire accéder le père Jean Léador. Alors, je passe sur l'explication de ces jeunes gens qui, venus de l'Orient, sont rendus à l'Occident, enfin, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Je passe aussi sur un effort très mal connu, qui est l'effort du trône de Jérusalem de 1661 à 1743, sous les patriarcats de Nectaire, de Dosité et de Chrysante, pour revivifier complètement la connaissance des pères au sein de l'orthodoxie, une école qui mériterait tout un travail et qui aboutira en Russie, évidemment, avec l'académie et l'imprimerie gréco-slave, avec parfois aussi, je le dis sans phare, avec parfois aussi quelques opérations assez extraordinaires de conformation de la spiritualité orthodoxe à sa dogmatique de manière très volontaire. Je pense par exemple, j'y arrive à l'envoi de quelques archimandrites grecs qui ont largement réécrit la géographie russe, et où de très braves moines russes, ayant vécu dans la simplicité de l'adoration perpétuelle, se voient d'un coup, dans la réforme de leur vie, telle que réécrite par ces archimandrites russes au XVIIe, XVIIIe siècle, des doctrinaires de la lumière incréée, qu'ils voient tous alors qu'elle était largement absente avant de leur vie, n'est-ce pas? J'ai dit de leur vie écrite, hein, n'est-ce pas? Donc là, on a un effort énorme, au contraire de ce qu'on peut penser, au XVIIe, XVIIIe siècle, de palamisation, en quelque sorte, désicastisation, n'est-ce pas, de la géographie orthodoxe, avec un large travail de réécriture, qui là aussi est passé sous silence, habituellement. Et qui n'est pas sans poser de problème, d'ailleurs, soyons clairs, hein, et qui favorise cette idée que la théologie orthodoxe, évidemment, se confond de manière totale avec l'héritage hésychaste. Donc, je passe là-dessus, je passe sur les essais de dogmatique grecque et russe, plus ou moins hasardeuse, des XVIIe, XVIIIe siècles. Je penserai, par exemple, à Bulgarie, à Achimenites, à Nicéphore Mélicénos, Georges Corésios, qui sont très dépendants en fait de Scholarios et qui sont dans cette volonté de rivalité mimétique avec une double latinité qui n'est pas que catholique, qui est aussi protestante, puisque le protestantisme est encore dogmatique à cette époque-là. Il produit des dogmatiques en latin qui influencent beaucoup l'Orient, n'est-ce pas ? Et donc ils se sont obligés de produire des systèmes dont on pourrait dire qu'ils ont que les défauts de la scolastique sans en avoir la grandeur, n'est-ce pas ? Et qui sont souvent dans une approximation dialectique extrêmement regrettable. Ce qui est à peu près normal, puisque lorsqu'on force son talent, on se retrouve à contre-courant de soi-même, et on fait rarement dans le génie à ce moment-là, n'est-ce pas ? Donc, je passe surtout sur l'aspect bien connu des dogmatiques 18e siècle russes, qui sont dans un état encore plus catastrophique, le père Florovski l'a assez souligné, on n'y reviendra pas. Je passe encore, vous savez, c'est la fameuse formule chez Macaire de Moscou, la fameuse formule de lorsqu'il en arrive aux définitions de l'être divin, il dit il faut surtout éviter de poser une distinction quelconque en Dieu, puisque cette opinion impie a été soutenue en Occident au XIVe siècle par Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, et en Orient au XIVe siècle par quelques moines de Latos. Des moines de Latos qui pour lui sont même anonymes, c'est-à-dire Gilbert de la Porée semble mieux connu par l'évêque Macaire de Moscou que Grégoire Palamas lui-même, passons. Donc là, on est dans ces fameuses citations qui sont toujours sorties pour montrer, je dis au contraire, que malgré tout, il y a eu un effort, même si ce n'était pas dans ces dogmatiques. Bon. Je passe encore, je suis désolé, je passe sur beaucoup de choses, mais je suis obligé de passer parce que le temps passe, et moi avec. Je passe sur... évidemment, la tragique question des confessions de foi du XVIIIe siècle, 17-18e siècle. Ce que je veux dire, au contraire, c'est que par exemple, l'aventure au XVIIIe siècle de gens qui sont généralement peu valorisés. Les frères Lycoudès, hiéromoine Joannis, 1633-1717, et Sophron, 1652-1730, prédicateur à Constantinople, envoyé par Dosité de Jérusalem en Russie, est une aventure tout à fait importante, puisque contre les théologiens latinisants de Kiev, ce sont eux qui vont publier dans un petit ouvrage de 1690 qui connaîtra une grande importance, une présentation assez complète pour l'époque de la théologie de Saint Grégoire Palamas. Donc, vous voyez, c'est plutôt dans cette contre-histoire qui reste à être écrite, sur laquelle il y a des documents, mais sur laquelle on n'a pas encore fait de travail assez profond, cette contre-histoire qui me semble tout à fait significative. Et ce sont eux, enfin, qui, par exemple, ont transformé la vie de Varlaam Choutinsky, parce que là, il y a une étude assez belle de fait, un saint de Novgorod des 12e-13e siècle, en une espèce, effectivement, de doctrinaire hésicace du 14e siècle byzantin, et ce moine russe, franchement, qui avait toute la simplicité, je dirais, d'un évangile immédiat vécu dans la nature, se retrouve d'un coup plongé dans sa vie réécrite au sein de polémiques, pour le coup, très byzantines, qui, rétrospectivement, au ciel, ont dû l'impressionner. Bon, donc on voit bien que cet effort n'a cessé, on va passer sur l'avènement de la philokalie, où cet effort devient systématique, sur le fait aussi qu'il n'y a jamais eu d'études assez importantes de fait sur la propagation de la philokalie et les vecteurs de propagation de la philokalie, mais pour aller vite, en fait, la philokalie a permis de reconstruire l'interland, le cœur géopolitique orthodoxe, puisque, grosso modo, le chemin suivi par la philokalie au XVIIIe siècle, début XIXe, a été celui suivi par la colonisation hésychaste des XIIIe-XIVe siècle et par celui des missions du 7e, 8e, 9e siècle, le même schéma, absolument. Dessinant donc un espace orthodoxe qui s'est retrouvé d'ailleurs après la chute du mur de Berlin en 1989 intact. Donc là aussi, on manque de choses, mais il est évident que sur ce chemin-là, Palamas est désormais présent et revendiqué comme le signe absolu de l'identité orthodoxe, sauf dans la philokalie de Théophane le Reclus, dont les accents piétistes font de facto écarter des considérations théologiques trop importantes. Alors c'est dans cette atmosphère, en fait, que le mouvement slavophile, avec Ivan Kirievski, va consciemment prôner un retour à Byzance, qui va être en fait un retour à Palamas. Kirievski écrit cela en 1840. Le programme a pris du temps, puisqu'il va être accompli en 1959, soit un siècle plus tard. Et c'est là donc où je voudrais intervenir de manière claire, c'est que face à l'agression d'Istina, considérant que Palamas n'avait en quelque sorte jamais existé, les orthodoxes, d'une manière apologétique, agitent généralement trois textes assez mineurs, il faut le dire. Un de Georges Papamichaïl, publié à Alexandrie à la fin du XIXe siècle, début du XXe, sur Palamas. Un autre du père Dimitrou Stalenoé lors de son bref passage à Paris dans les années 20. Et un troisième de Monseigneur Basile Krivosheïn, futur Monseigneur Basile, alors jeune, et publié à Prague, dans vos souvenirs, non ? À Prague. Pour moi, ces textes ne jouent contre l'avènement de le renouveau de notre regard sur Palamas tel que prôné par le père Jean Meyendorff. Le père Jean Meyendorff joue contre ces textes, et on va voir comment, parce qu'en fait, ce sont ces textes qui ont décidé ensuite de l'acceptation mitigée de la thèse du père Jean Meyendorff dans les milieux orthodoxes. Je vais expliquer pourquoi et comment.
Il y a encore le doctorat du père Cyprien Kern.
Oui, j'ai arrivé, mais Kern et Losky, je vais mettre un tout petit peu à part. Voilà. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Un peu compliqué. En même temps, assez simple. Palamas, avec le renouveau des missions prônées dans la suite du Concile de Vatican I par l'Église romaine, avec les encycliques sur la révélation des dogmes, Filius Dei, 1869, et avec le caractère obligatoire du thomisme comme seul et parfait fondement de la philosophie chrétienne, Eterni Patris, 1879, provoque sur l'intelligence orthodoxe en plein réveil et en plein récupération de ses moyens purement intellectuels, provoque une deuxième pseudomorphose, dont le meilleur indice va être l'espèce de bataille désespérée que les orthodoxes vont produire, vont pas cesser de produire, et vont reproduire, même après le père Jean Meyendorff, cette espèce de bataille désespérée autour de Denis l'Areopagite, qui, je vous le rappelle, est la référence principale de Thomas. Alors, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi et comment, rapidement. Il me reste combien de temps ? Un peu de temps, quand même, monsieur le président. On avait le droit à une heure.
Pas tout à fait.
Si. Non, 14h30, 15h30.
14h30, 15h30, si on laisse un temps pour les questions.
Alors, j'y vais. J'y vais. On essaie de créer donc une ligne idéale qui va de Georges Papamichaïl, Miral Lotborodin, Basile Krivosheïn, Dimitrou Stalenoé, Cyprien Kern, parce qu'ils parlent tous de Palamas, n'est-ce pas ? Moi, je vous dis, c'est pas la question, c'est pas de parler de Palamas, la question de savoir comment on en parle. « dans le même temps, les efforts les plus sérieux pour fonder une pensée, ce sont évidemment ceux de Georges Florovski, qui va ensuite se dissiper dans une œuvre historique extrêmement fragmentée, puisque chez Florovski, c'est l'œuvre de jeunesse, hein, qui est la plus massive et la plus fondatrice, et chez Vladimir Lossky, qui lui ne fait pas une œuvre, à qui on fait faire une œuvre à partir de ses conférences, en quelque sorte, ce qui est une œuvre, en quelque sorte, dont nous n'avons que la partie exhumée, en quelque sorte accidentelle, œuvre vitale, qui conditionne tout le XXe siècle, Vladimir Lossky étant réellement le théologien refondateur, à mon sens, de la théologie orthodoxe, n'est-ce pas? Mais il y a un problème chez Lossky. C'est que l'opposition frontale à l'héritage de la scolastique latine, qui a caractérisé le retour, la récurrence de Palamas du XVe au XXe siècle, devient une dépendance chez Lossky. Et pour une raison simple, c'est que Lossky doit faire seul face à la magnifique réinvention du thomisme que propose à ce moment-là Étienne Gilson, qui de surcroît est son maître dans ses propres études à lui, Lossky, sur Maître Eckhart. Or, Thomas, Maître Eckhart, Gilson, il n'y a qu'une question qui vraiment relie le tout, c'est Denis. Puisqu'on peut considérer, c'est une vaste question qui a traversé l'ordre dominicain, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu des dominicains autour des cartes pour penser que le réalisme thomiste n'était au fond qu'un nominalisme face au réalisme mystique que proposait Eckhart, n'est-ce pas. Ça a traversé l'ordre assez brièvement, mais fortement. Ce qui veut dire que, en fait, et pour aller vite, Lossky, qui n'a pas établi de lecture de Palamas, qui est revenu dans ses conférences ultérieures sur l'attachement essentiel à Denis qu'il montre dans Théologie mystique, qui a fini par comprendre qu'il y avait chez Denis la tentation d'un apophatisme non trinitaire, qui correspondait à un apophatisme sec, en quelque sorte, idéal, mais qui ne pouvait pas être celui de la tradition hésychaste. Donc, ce même Lossky trouve, à mon avis, chez Behrendorf, son correctif, l'expression, dans Introduction à l'étude de Saint Grégoire Palamas, du correctif christologique, qui est un leitmotiv, dont à la fin, il faut bien dire qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, tellement il est utilisé massivement par le Père Jean comme une stratégie de lecture, s'applique principalement, il faut le dire, à Lossky. C'est-à-dire à Denis. Alors j'en arrive à cette lecture, qui pour moi est donc en rupture avec ce qui l'a précédé. Doublement. Une lecture qui ne veut s'établir ni contre la tradition latine, ni en dépendance de l'histoire de la patristique, mais qui veut s'établir comme une lecture, je le répète le terme, catholique. Bon. Comme vous le savez, Meyendorf en 59 est le premier à donner une vision complète de l'œuvre de Palamas et à donner un premier aperçu de la tradition complète manuscrite et à donner une traduction, une édition et traduction d'une œuvre essentielle. Comme vous le savez, l'interprétation globale de la pensée que donne le Père Jean de Palamas a prêté ensuite à de nombreuses controverses et attaques. Pour Meyendorf, et en reprenant son exact vocabulaire, Palamas a eu à défendre l'essence du message chrétien contre deux tentations conjointes, celle des théologiens conservateurs adeptes de la répétition et celle des philosophes humanistes, nominalistes ou agnostiques, dont le sécularisme latent, païen, profane, faisait d'eux des précurseurs de la double fracture en Occident, de la Renaissance et de la Réforme. De manière novatrice, à la fois traditionnelle et, enfin, de manière traditionnelle, c'est-à-dire à la fois inscrite dans le fil et novatrice, Palamas, au contraire, selon Meyendorf, accomplit l'héritage patristique en corrigeant les excès platonisants qui sont présents, et l'instaure dans une perspective biblique, christocentrique et personnaliste, qui ainsi fonde un authentique existentialisme du mystère de l'expérience chrétienne, incompressible dans un système ou une expression systématique. Et que c'est tout cela qui fait l'actualité, selon le père Jean de Palamas. Cette thèse a été tellement forte qu'elle a provoqué au sein du catholicisme des relectures de Thomas. Et des relectures de Thomas à la lumière de Palamas, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, vous avez lu Palamas à la lumière de Thomas, n'est-ce pas ? Vous voyez cette inversion. Elle a provoqué aussi, on le verra à la fin, elle a nourri une réflexion plus globale de la clôture que l'augustinisme a portée à la réflexion sur la grâce en Occident, et donc à la nécessaire réouverture d'une lecture des pères, je dirais, lecture des pères à la lumière de la phénoménologie de l'expérience, n'est-ce pas, mystique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été très critiquée dans l'orthodoxie. Basile Krivoshine, je cite, cette thèse montre une acceptation des opinions courantes communes à l'esprit latinisé de l'Occident moderne. Jean Romanides, Romanidis, comme on voudra, qui avait monopolisé la revue grecque de Holy Cross pour faire un commentaire du livre du Père Jean, qui a couru sur 2 ans, et qui, à la page 627, probablement, se concluait par un à suivre et 3 points assez menaçants. Il s'est arrêté là, heureusement, on ne comprenait plus très bien ce qui restait à démolir dans la thèse, de toute façon, n'est-ce pas, du Père Jean. On ne comprenait plus très bien ce qui restait à démolir. Et de manière plus subreptiste, je dirais, par exemple, la thèse de Galitzine, qui oppose une lecture totalement, je dirais, normative de Denis, et qui, pour moi, participe de cette non-réception volontaire, quasiment. Pourquoi ? J'y arrive. Parce que le père Jean, qui n'était pas un métaphysicien, contrairement à Vladimir Lossky, mais qui avait affaire et qui avait été nourri à une pensée catholique qui ne cherchait plus à reconstruire une cathédrale médiévale à l'image de Gisson, mais qui s'interrogeait sur le sens même de l'histoire, à savoir qu'il a été l'élève principalement d'Henri René Maroux. Que donc, nourri à cette pensée, le père Jean a eu l'intuition, bien que, encore une fois, parce que ce n'était pas son éducation, il ne l'a jamais codifié, mais c'est l'intuition qui sous-tend sa thèse, c'est qu'entre Denis et Palamas, il faut choisir. Et moi, je vais vous dire pourquoi, parce que selon moi, en plus, il faut bien choisir, parce que s'il y a une bonne lecture de Denis, c'est celle de Thomas, c'est pas celle de Palamas. Et que donc, il faut admettre que Palamas tord Denis, et qu'il a raison de le tordre, parce que la vérité de la tradition se tient dans Palamas, à ce sujet-là, et pas dans Denis, c'est le fameux correctif christologique. Et que, en fait, l'entreprise palamite au XIVe siècle, face à l'affirmation d'une scolastique qui attire des Byzantins, qui donnaissent, face à la préfiguration d'une philosophie renaissante, Grégoras, face à un univers monothéiste où s'accomplit l'alliance entre le Dieu vérité et la raison déifiée, le palamisme, ou Palamas, ou l'hésychasme, ou Palamas lui-même tout simplement, c'est l'avènement d'une pensée qui refuse l'ontothéologie. Et que ce que le père Jean avait compris, bien que ce ne fût point son vocabulaire, c'est qu'il fallait désontologiser Palamas. Et qu'il le comprenait d'autant mieux qu'il avait expérimenté ce souci dans la pensée catholique française d'après-guerre, qui elle-même avait vécu toutes les impasses d'une ontologisation du mystère qui menait en fait simplement à la sécularisation et à la déchristianisation. « Cette thèse était géniale par ses fautes, par ses excès. Et je dirais, alors si on veut refaire le chemin, non, Barlaam n'est pas nominaliste, non, on ne peut pas interpréter la querelle entre relations de réalisme versus nominalisme, le christocentrisme tel que le Père Jean le présente n'est pas non plus la solution à tout, etc. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi cette thèse produit tellement d'effets dans l'histoire, par la vérité qu'elle porte, et pourquoi tant d'autres petites thèses qui sont venues la rectifier sur des points mineurs ensuite sont restées d'une étonnante, criante stérilité. Alors, je passe, et je dirais que, en fait, si on veut bien comprendre, je passe très rapidement, et si on veut bien comprendre, et la clé est donnée quand même dans un texte dont il faut remercier le Père Sède qui va être republié bientôt, le Christ dans la théologie byzantine, n'est-ce pas ? La clé est donnée par le Père Jean lui-même, lorsqu'à la fin du Christ dans la théologie byzantine, il s'adresse à Raner. Et à travers Raner aussi, évidemment, la pensée du Père de Lubac et autres qu'il connaissait bien, n'est-ce pas ? Et qui est l'interrogation au même moment de la théologie catholique romaine sur la grâce. Alors je vais passer très rapidement, mais grosso modo, la grande question ranérienne, c'est comment le Verbe peut fonder l'avenir divinisé de l'homme, n'est-ce pas ? Et la réponse ranérienne, c'est qu'il est impossible de penser cette question sans réformer la notion de grâce telle qu'elle est reçue dans une certaine tradition occidentale. Je passe là-dessus, j'ai pas le temps. Je citerai justement tous les problèmes que Raner a avec la vision béatifique. La vision béatifique ne saurait consister dans la disparition du mystère, mais bien plutôt dans sa présence immédiate, c'est-à-dire dans sa complète et béatifiante acceptation qui est divinisation. Donc c'est cette lecture qu'il faut mettre en rapport, et évidemment, je dirais, le Père Jean, qui était au demeurant un grand historien, dans sa thèse, a souvent quitté l'histoire pour faire, à partir de l'histoire, de la théologie et de la théologie pour aujourd'hui. Donc, j'en arrive à la fin. En dépit donc de toutes les reproches qu'on peut lui faire, cette thèse perdure parce qu'elle a bien perçu que le problème c'était l'ontothéologie, que le problème c'était Denis, et que derrière l'ontothéologie et Denis, se poser la question de savoir si nous avons une théologie qui est réellement trinitaire, fondée sur une christologie totale, qui elle-même est à même de fonder une anthropologie théocentrique. Et que c'est pour cela que ça vaut la peine de lire les pères, parce que pour le reste, je le dirai sans qu'on le prenne mal ici, j'abandonne volontiers à qui veut cette petite science allemande faite pour mettre en cage la vie et qu'on appelle la pathologie.